Ne recherchez pas le Kama Sutra de l'innovation, faites les choses simples et ça peut marcher, on peut toutes et tous innover.
Bonjour et bienvenue sur ASAP. Cette semaine, mon invité est Carole Stromboni, auteur de Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation. Carole va nous expliquer ce qu'est l'innovation frugale et comment la déployer dans les PME et les grosses entreprises. Je laisse tout de suite la parole à mon invité.
Bonjour à toutes et tous, donc moi je suis Carole Stromboni. Je suis un bisounours, moi, dans le monde de l'entreprise. J'aime bien quand les gens se parlent bien, travaillent bien ensemble, sont un peu francs. Donc c'est un peu à contre-courant de pas mal de mouvements de management. Dans la vraie vie, j'entends, parce que dans le discours, c'est souvent ce qu'on dit. Sinon, je suis aussi type 7, donc je suis très enthousiaste.
Et pour les personnes qui sont fans d'astrologie, je suis Capricorne, donc je suis aussi, j'aime bien quand les choses avancent.
Moi, je travaille dans le digital et l'innovation depuis une quinzaine d'années. J'ai, après mes études assez généralistes à Sciences Po et HEC, moi je suis sortie, j'ai commencé à travailler vraiment après plein de stages à 27 ans. J'ai commencé dans le conseil en management et en conduite du changement chez Capgemini Consulting, plutôt dans le secteur public parce que c'est là où je voyais du sens. On parlait pas de sens à l'époque, pas de raison d'être comme aujourd'hui, mais en tout cas moi j'en avais besoin et c'est vers ce domaine-là que je me suis tournée. Donc comment moderniser l'administration, j'adorais le digital déjà avant que ce soit à la mode, ça s'appelait système d'information, c'était pas sexy, mais c'était ce que moi j'avais envie de travailler. Je pensais que c'est là qu'on pouvait vraiment changer les choses. Donc j'ai fait beaucoup de digital, beaucoup de simplification, beaucoup de modernisation et ensuite j'ai travaillé pendant 10 ans au Seine-Saint-Denis pour le département de la Seine-Saint-Denis sur ce territoire où j'habite d'ailleurs puisque j'habite à Pantin et j'ai beaucoup œuvré pour pareil simplifier les processus de travail, mettre en place des démarches agiles même quand ça s'appelait pas encore agile et beaucoup de gestion de projet, de gestion de programme, toujours sur du digital, et j'ai découvert l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui un peu théorisée il y a 5-6 ans. Je me suis aperçue qu'on pouvait faire des choses rapides, des sprints créatifs en 4 jours, on pouvait prototyper, avoir des idées, des premières expériences. J'ai trouvé ça assez magique, l'innovation. J'ai trouvé que ça permettait de redonner de l'espoir dans le travail, qu'on pouvait soi-même en tant que salarié se dire « Ah bah, je peux changer quelque chose, ça peut arriver, je peux le tester ». J'ai trouvé ça très, très émancipateur finalement, l'innovation, très porteur d'espoir quand on veut changer les choses, les améliorer. Et j'ai beaucoup appris, je me suis formée, j'ai fait un diplôme universitaire de design thinking, avec Paris Descartes, j'ai rencontré plein de gens qui innovaient, j'ai vraiment adoré cet état d'esprit. Pour moi, l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit, c'est aussi des techniques, c'est ce dont je parle dans mon livre que je viens de publier chez Erol sur ce sujet de l'innovation. Et donc là, la troisième étape après le conseil et puis la gestion de projets de modernisation en Seine-Saint-Denis, maintenant je suis freelance en innovation. Donc je fais des missions pour différents types de clients sur ces sujets-là, sur comment monter un lab, comment monter une démarche participative, comment gérer un projet de refonte d'un produit digital. J'accompagne différents types d'acteurs. Donc là, aujourd'hui, je diversifie un peu mon activité. Et j'ai aussi écrit ce livre pour capitaliser sur mes 15 années d'expérience, sur ce que j'ai appris, sur les personnes que j'ai rencontrées. L'innovation, c'est un mot valise aujourd'hui. En fait, on peut tout mettre, tout et n'importe quoi. Moi, ce à quoi je suis attachée, c'est dire que l'innovation, c'est une idée. Donc, c'est comme on avait avant une invention, une idée d'amélioration. Mais c'est surtout quelque chose qui se matérialise, donc qu'on exécute, et quelque chose qui est utilisé, donc où il y a un engagement des personnes. Et pour moi, l'innovation aujourd'hui, ça a changé parce qu'on peut plus facilement exécuter, créer des choses qui nous paraissent évidentes, grâce notamment au digital. On peut créer une application sans être un expert informatique, on a plein d'outils de prototypage, il commence à y avoir une certaine mentalité d'identifier les points de blocage et ensuite de travailler là-dessus, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de start-up. On parle aussi plus d'innovation parce qu'il y a plus de financement pour tout ce qui est start-up, il y a plus d'argent qui est investi sur ces sujets-là. Il y a un élan aujourd'hui qui est donné à la société parce que, un, c'est plus facile, comme je viens de le dire, avec le digital, pour tout ce qui est innovation digitale. Deux, c'est plus facile aussi parce qu'il y a plus d'argent pour le monde des startups. Et je pense aussi qu'il y a un élan un peu avec tous ces Américains qui tirent l'innovation avec les Facebook, les Amazon, les Google qui créent du rêve en fait. On commence à avoir une sorte de grand récit du tout est possible, il faut innover, regarder, c'est possible. Et donc je pense que cette partie un peu récit, rêve, attire beaucoup de monde et rend l'innovation encore plus désirable aujourd'hui qu'elle a pu l'être il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, effectivement, moi, j'entendais pas parler spécialement d'innovation. Même si elle était là, dans mes métiers, on parlait digital, oui, mais on parlait pas d'innovation comme on en parle aujourd'hui. La capacité à créer eux-mêmes. C'est pour ça que dans mon livre Innover en pratique, je dis comment on peut mener et réussir sa démarche d'innovation. Parce que effectivement, aujourd'hui, on a les moyens de créer soi-même de façon assez économe. Quand on est bien, on est sur la bonne route et qu'on travaille avec les bonnes personnes, avec les bons outils, on peut aller aussi très vite. Il y a beaucoup d'outils à la fois théoriques et pratiques qui permettent de changer les choses. Et donc, effectivement, c'est plus un sujet d'ingénieur, l'innovation. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, moi, mon livre, c'est tout sauf les méthodes d'ingénieur, puisque je suis pas ingénieur, donc j'aurais du mal à en parler. Mais effectivement, ça a beaucoup démocratisé l'innovation, les avancées technologiques et toutes les théories. Par exemple, dans mon livre, la moitié, c'est ma vision de l'innovation, comment on peut éviter, avec des interviews aussi de personnalités qui innovent. Et la deuxième partie, ce sont des fiches pratiques très simples qu'on peut appliquer soi-même. Ça devient très accessible, effectivement. Ce qui peut bloquer l'innovation dans une entreprise, c'est un peu l'image des trois singes, celui qui ne veut pas voir, celui qui ne veut pas entendre et celui qui ne veut pas parler. Et donc, en fait, souvent les dirigeants ne veulent pas voir ce qu'il faudrait faire. Ils préfèrent rester sur leur voie en disant « ça marche bien, je ne veux pas faire plus, je ne veux pas voir les vrais problèmes ». Donc il y a un côté un peu de vouloir traiter des choses mais sans vraiment aller voir ce qui fait mal. Et ça donne des démarches d'innovation sur beaucoup d'idéations, donc sur la partie idée dont je parlais, qui n'est en fait que 10% d'une innovation. Donc on passe beaucoup de temps à avoir des idées, à faire du brainstorming pour finalement ne rien ressortir de vraiment concret. Donc ça, c'est une première chose, c'est on veut pas avoir les vrais sujets, donc on fait un peu de mousse autour. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est on veut pas entendre. Donc on veut pas parler vraiment aux clients finaux. Souvent, on les oublie, on fait beaucoup de choses en interne dans une entreprise, mais on a peur d'aller voir les personnes qui sont les utilisatrices finales des innovations auxquelles on pense, mais aussi les utilisatrices finales de nos services. Pourquoi ne pas les voir directement, très vite? Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les sprints créatifs qui sont une méthode développée par Google où on passe du temps avec les gens. Moi, j'ai passé, par exemple, 4 jours avec des personnes handicapées dans une salle d'attente à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et les services qu'on a imaginés innovants, on les aurait jamais imaginés si on était restés dans nos bureaux. Donc, on est allé les écouter, on est allé leur parler. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est si on va pas vraiment écouter les personnes qui sont les destinataires des innovations et surtout les destinataires de notre business, puisque l'idée, c'est quand même d'améliorer son business ou son service, si on n'a pas de... En tout cas, d'améliorer sa qualité de service et son marché. Et la troisième, par rapport finir sur le singe, c'est celui qui ne veut pas parler. Donc en fait, c'est aussi... Ce dont on parle beaucoup, c'est la culture de la confiance, c'est pouvoir libérer la parole. Et souvent, il y a un double discours dans les entreprises. C'est oui, vous pouvez dire, mais faut pas. Mais on peut, comme je disais, on peut pas tout entendre. Donc quelque part, il y a un double discours qui fait que parfois les gens n'osent pas prendre des risques. On entend beaucoup, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Pour faire des erreurs, il faut prendre des risques. Moi, quand j'étais manager, j'avais écrit ça sur mon tableau parmi d'autres choses. Et c'est ce que je disais à mes équipes. J'ai dit, il faut faire des erreurs, mais pour ça, il faut prendre des risques. Mais dans une institution qui ne favorise pas vraiment ou que juste dans le discours, on a du mal à innover, puisqu'innover, c'est prendre des risques par essence. C'est faire des choses ou pour lesquelles souvent on désobéit. Alors parfois on est récompensé, parfois non, mais c'est tout ce qu'on appelle le hacking. Moi j'en ai fait quand j'étais en innovation, j'ai fait des choses sans demander autorisation, puis ça a bien marché, on m'a dit bravo, mais ça aurait pu très mal marcher, on m'aurait dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a cette culture du risque quand même dans l'innovation, parce que comme c'est nouveau, ça fait peur, et donc on n'ose pas toujours, donc, au sens de parler, l'exprimer, le faire. Donc voilà, si pour moi, ce sont trois raisons qui peuvent expliquer que en entreprise, l'innovation a du mal à, souvent, parfois, à vraiment se matérialiser, au-delà de l'idée. Dans mon livre, qui est un livre pratique vraiment sur comment on fait concrètement, j'essaie de donner des clés en fonction de là où sont les entreprises, parce que tout le monde a une culture différente. Et mon livre, il s'adresse aux dirigeants de PME, et plus largement aux personnes intéressées, mais surtout aux dirigeants de PME qui savent, qui doivent innover, qui ont envie de le faire, mais qui ne savent pas comment. Et donc moi, c'est voilà un peu les étapes qui vous permettront d'innover. Il y a trois composantes importantes que je développe. C'est la première, c'est tout ce qui est humain. Ça a l'air évident, mais il faut travailler sur la formation des gens. Comment on innove, c'est un état d'esprit, il faut diffuser cet état d'esprit, qu'il s'infuse. Mais aussi, ce sont des techniques, il y a beaucoup de choses à comprendre. Ça, on ne s'improvise pas innovateur en entreprise. Et il y a évidemment un effort à faire de la part de l'entreprise sur la raison d'être. On en parle beaucoup, pourquoi on fait ça, en fait. Donner du sens dans le monde d'aujourd'hui, l'intégrer à son business model, que ce ne soit pas juste un discours, mais que les salariés puissent voir que ça se matérialise vraiment dans le business model, dans le concret. Donc il y a toute une partie sur l'humain qu'il faut travailler, et certaines structures comme par exemple Numa à Paris, qui était un prestataire de mission d'innovation avec qui j'avais travaillé, je les avais missionnés sur mon laboratoire d'innovation que j'avais monté il y a quelques années, et eux maintenant ils se ressentent que sur la formation, parce que vraiment ils s'aperçoivent que c'est le cœur, c'est comment les gens appréhendent l'innovation. Il y a aussi un langage commun qu'il faut maîtriser. Donc dans mon livre, par exemple, j'ai un glossaire à la fin qui donne des définitions, parce que ça mêle à la fois des définitions d'innovation, du digital, des anglicismes. Ça peut paraître assez aussi théorique, donc il y a un travail très fort à faire sur l'humain. Donc dans mon livre, c'est un élément important. Le deuxième point qui me semble vraiment essentiel, c'est tout ce qui est expérientiel. Donc ça, c'est un peu lié aussi au marketing. Moi, j'adore Seth Godin, qui a sorti un livre récemment sur le marketing, qui est un grand pont du marketing. Et en fait, quand on le lit, ça parle beaucoup d'innovation sur cet aspect expérientiel. C'est ce que je disais, aller voir les gens, tester avec eux, être vraiment dans un rapport expérientiel à l'innovation et dans les services et produits qu'on crée. Donc il y a toute une phase que je détaille sur comment justement créer cette expérience. Et un troisième élément qui est important, qui est la frugalité. Donc effectivement, comment faire tout ça sans dépenser des sommes extravagantes, ou en tout cas en dépensant à bon escient, parce qu'évidemment c'est pas gratuit d'innover, ça demande de l'énergie, des ressources humaines, des ressources financières. Mais on n'est pas obligé d'y consacrer des millions d'euros. Et donc là, je développe aussi dans cette partie des clés un peu pour réussir à innover. Donc par exemple, les boucles d'innovation très rapides où on itère, tout ce qui est open innovation, c'est-à-dire savoir travailler en synergie avec d'autres acteurs, créer des relations de confiance productives pour avoir un service qui soit vraiment innovant et utile. Donc ça, je développe aussi toute cette idée de frugalité, et notamment quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais qui est très, très important, c'est la démarche effectuale, qui est une démarche américaine qui a été popularisée en France, mais qui consiste à se dire « je dois tout donner à un moment ». À un moment, j'ai une cette somme d'argent, elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais avec ça, je vais réussir, et je dois tout dépenser, tout donner, créer. Et là, on est dans un autre rapport à l'innovation, au projet. Oui et non. oui, complètement d'accord. Il faut travailler sous contrainte, avoir des petits budgets au départ, voire pas de budget. Ça peut aussi être une stratégie d'innovation au début pour identifier le problème, pour commencer à prototyper, pour tester, avec s'obliger à tester, à bricoler. Aujourd'hui, on peut faire une application digitale en 2 heures. Moi, j'ai un sprint créatif, on dessinait les images de notre... De notre application pour les utilisateurs, on disait quel bouton était cliquable et en 2 heures on avait fait une application. Donc effectivement, avoir peu de moyens, on peut faire la même chose avec du prototypage rapide avec du carton. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des très petits budgets ou par soi-même ou avec des prestataires qui sont spécialisés sur ce genre de choses. J'en ai interviewé quelques-uns dans mon livre aussi. Donc oui, c'est vrai, être sur contrainte, c'est très bien. Après, c'est sur la... Et non, parce que sur la partie industrialisation, lorsque l'on veut vraiment déployer son innovation, souvent, c'est là que le bât blesse. Et s'il n'y a pas le budget qui est prévu derrière, les ressources, ben souvent, l'innovation, elle en reste là. Donc, c'est jamais perdu, puisque les personnes ont grandi, elles ont appris, et c'est un gain pour l'entreprise de... C'est pour ça qu'il y a certaines techniques d'innovation comme l'innovation en essaim où on réinjecte ces personnes dans d'autres projets pour qu'elles puissent un peu essaimer. Et même si leur produit ou innovation a pas eu, comment dire, c'est pas matérialisé dans le monde, au moins ce qu'elles ont appris, elles peuvent le diffuser à d'autres et accélérer en fait peut-être un projet qui lui verra le jour. Donc effectivement, oui, il faut travailler sous contrainte, c'est le meilleur pour la créativité. Et la recherche de solutions do it yourself, quoi, dans l'esprit maker. Et non, quand on doit vraiment déployer, là, il faut savoir investir et se dire que parfois ça peut prendre très longtemps. Adobe, par exemple, a complètement changé son business model, mais quand on regarde les courbes de business, ça leur a pris plusieurs années de devenir un service un peu d'abonnement plutôt que des licences comme ils le faisaient avant. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont su investir sur le long terme. Donc il y a aussi cette idée de temporalité à la fois courte, moyenne et longue qu'une personne qui pilote l'innovation dans une entreprise doit avoir en tête et savoir quand allouer des moyens et quand effectivement ne pas les allouer. Donc moi, je pense vraiment que les PME, c'est la meilleure taille pour innover. On a des personnes qui sont les maîtres de leur navire, un navire qui est manœuvrable, qui a une culture sur laquelle on a une action rapide, avec déjà des clients, un business model, des choses qui tournent. Et c'est à la fois leur force et leur faiblesse. C'est-à-dire que c'est la force des PME, c'est que celles qui existent encore, ben, elles vivent bien, elles n'ont pas forcément envie d'innover parce que la routine crée... Voilà, ça fonctionne bien, donc elles voient pas pourquoi elles devraient innover. Et en même temps, c'est leur force, parce que c'est maintenant qu'elles peuvent le faire. C'est avec ces moyens, cette capacité à manœuvrer leurs équipes qu'elles peuvent le faire. Mais en revanche, quand moi j'ai cherché pour mon livre des témoins, des dirigeants de PME, grosses PME, moyennes PME qui innovent, j'ai eu beaucoup de mal. Et quand j'appelais les agences d'innovation territoriale ou les chambres de commerce, j'ai appelé la BPI aussi en région... Et eux me disaient que parfois, ben, même le digital, qui est même faire la base d'aujourd'hui, ce qu'est le digital ou des démarches en ligne, c'est même pas innovant. Pour moi, c'est standard. Même ça, les PME n'y pensent pas forcément. Elles sont encore une minorité. Alors, on a des pépites qui commencent à naître avec la BPI qui a ses programmes pour faire passer les PME à ETI. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui en France, des financements. Mais il y a un manque encore de prise de conscience. Et les personnes qui innovent que j'ai pu identifier, elles se sont un peu des extraterrestres dans leur domaine. J'ai une personne dans mes interviews qui a repris une entreprise de papier, donc d'emballage papier, et qui a innové, et c'est notamment sur le sens. Elle voulait faire quelque chose de très écologique, et les gens ont ri, quoi, parce qu'ils pensaient qu'elle était à côté de la plaque, qu'il n'y a que le business, que le chiffre d'affaires qui compte, et pas les valeurs, pas... Alors que c'est elle qui a raison, et d'ailleurs, son entreprise existe toujours. C'est elle qui avait raison, elle était sur la bonne voie, avec des convictions, et elle a aussi mis en place des choses qui étaient innovantes dans son domaine. Donc, il y a quand même une culture, j'ai l'impression, dans les PME aujourd'hui, qui... Alors qu'elles sont elles sont finalement les meilleures, les mieux placées pour innover en termes de prise de conscience. Rares sont les personnes qui ont vraiment franchi le pas à la fois mentalement, en se disant, de toute façon, je suis obligée d'innover. C'est ce que m'ont dit toutes les personnes interviewées, oui, mais c'est évident qu'il faut innover. Mais elles restent, et quand elles veulent, elles y arrivent très bien. Parce qu'aujourd'hui, on le disait plus tôt, c'est possible de le faire. Encore faut-il avoir cet état d'esprit. Démarche d'innovation qui fonctionne bien, c'est l'intrapreneuriat, c'est-à-dire quand on a des personnes en interne qui ont envie de changer les choses et à qui on donne les moyens de le faire. Donc par exemple, moi, quand j'étais chez Père Habitat, qui est le bailleur social de la ville de Paris, j'ai monté le programme d'intrapreneuriat pilote où on avait spontanément deux personnes qui sont venues nous voir et qui disaient ah ben moi je code le week-end et j'ai des pensées que ça pourrait améliorer mon travail. Donc une personne qui avait fait un sujet sur le contrôle interne où il rendait plus lisible finalement les tableaux Excel que les managers ne comprenaient pas, et une autre qui était plutôt axée sur les locataires, qui avait une sorte de chatbot qui permettait de répondre à toutes les questions des locataires. Et eux développaient ça de façon passionnée à côté, ils étaient codeurs par ailleurs, alors que leur métier n'était pas du tout sur le code. Et nous, on leur a donné les moyens de le faire, de créer leur projet, de le tester sur une période de 8 mois, de façon à voir un peu si ça existait. Et c'est génial de voir des personnes comme je le disais un peu plus tôt, l'innovation, c'est l'autonomisation, c'est émancipateur, c'est fait pour améliorer sa vie, quoi, parce que le travail, c'est quand même pas la panacée. Donc c'est vraiment un excellent levier, l'intrapreneuriat. Et après, se pose la question de mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le projet ? Parce que la plupart des projets se terminent ou à différentes phases. Souvent, et j'en parle dans mon livre pour le critiquer, c'est l'image de l'entonnoir où on commence à 100, à un moment on est écrémé à 80, puis 50, à la fin il en reste 2 ou 3. Ces 2 ou 3, au jour d'aujourd'hui, sont très rarement mis en industrialisation parce qu'on se heurte à des problèmes très profonds dans des grands groupes. Est-ce que, par exemple, chez Total, si on a un projet de panneaux solaires, est-ce qu'on va vraiment pouvoir avoir les usines pour le faire? Enfin, il y a des choses qui sont très concrètes, qu'on se pose un peu à la fin. Et tous les coûts cumulés de tous ces projets d'avant font qu'on a des projets qui sont très chers au final. Et on a surtout des gens qui, dans le process, sont oubliés. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas envie, en général, de revenir dans leur ancien job. Parce qu'elles n'ont plus envie de travailler comme avant. Et c'est pour ça que c'est important de former, de changer les modes de travail. Et que toutes ces formations sur l'agilité, le design thinking fonctionnent. C'est parce que on voudrait les garder, ces personnes-là, pas qu'elles partent, donc que quand elles reviennent dans leur travail, soient pas si éloignées que de la culture de l'innovation, qu'ils reviennent pas dans des trucs trop traditionnels. Donc la réintégration dans leur poste des personnes qui ont goûté à l'intrapreneuriat, au plaisir du mode projet, à toutes ces techniques créatives qui sont qui donnent beaucoup d'espoir, qui donnent l'espoir de changer les choses. Ces personnes-là, il y a des techniques aujourd'hui, ça s'appelle l'innovation en essaim, où au lieu de les renvoyer quelque part dans leur métier traditionnel, souvent d'ailleurs elles quittent l'entreprise, ces personnes-là, au bout d'un moment, c'est les réinjecter dans des projets de même nature. Et ça veut dire, c'est un travail des RH de dire, vous avez beaucoup appris, venez aider cette équipe à monter en compétences plus vite, à créer un projet plus vite, et donc finalement... ce côté un peu essaim de réinjecter, de créer une dynamique qui soit vraiment vertueuse et de ne pas penser l'intrapreneuriat où on utilise les gens pour avoir une idée, les faire passer d'une étape à l'autre, mais vraiment les faire participer à un programme plus ambitieux qui transforme l'entreprise. Et c'est bien là la clé, c'est de savoir transformer la culture de l'entreprise aussi. J'ai beaucoup de lectures, moi je lis beaucoup de livres de management. J'ai été manager moi-même, à l'époque j'en ai lu beaucoup sur comment manager. J'ai fait beaucoup de formations à chaque fois que je pouvais le faire. Donc c'est ce que je lis le plus, effectivement ce sont des essais sur le management ou l'innovation aussi, j'aime beaucoup. Donc dans mon livre j'ai fait une biographie commentée, une bibliographie, pardon. Donc dans mon livre j'ai écrit une bibliographie commentée, j'ai pas voulu mettre une liste trop exhaustive, mais j'ai donné un peu les livres qui m'avaient le plus marqué ces derniers temps. Moi je peux en citer 3 Le premier, c'est Seth Godin sur le marketing. Donc, tout ce qu'il a écrit, mais aussi son dernier livre sur le marketing, parce que quand je le lis, moi, j'ai l'impression de lire sur l'innovation telle que une innovation responsable, une innovation humaine, une innovation utile, pas juste des mots ou des grandes idées. Donc, voilà, moi, c'est un Américain. J'ai beaucoup aimé dans mes lectures, un de mes livres de chevet, c'est le Game Storming de Macufano et Brown, qui est un livre américain aussi, traduit en français en 2014, qui liste plein de méthodes pour innover, c'est-à-dire des méthodes plutôt d'animation de réunion, de brainstorming, qui sont vraiment sympas. Il y en a une notamment où il faut prévoir le pire et se dire si un projet est mort, pourquoi il est mort au tout début. Des choses assez contre-intuitives qui favorisent l'innovation et qui permettent d'être plus intéressant. Et un troisième que je peux citer, que j'ai vraiment bien aimé récemment,
c'est pas récent, mais moi j'ai beaucoup aimé
L'âge du fer, le hacking de Michel Lallemand, qui est un chercheur qui parlait du mouvement des hackers dans la région de San Francisco début des années 2011-2012, et c'est un des livres qui m'a le plus marqué parce que j'ai été beaucoup dans l'idée du hacking et des makers, et c'est vraiment intéressant de voir comment les gens réfléchissent de façon différente par rapport à une vision un peu traditionnelle du management. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se fait souvent une montagne de l'innovation. On imagine un peu que c'est le Kama Sutra de l'innovation, qu'il y a plein de choses à faire, qu'il faut être très fort ou avoir beaucoup d'argent pour innover, que c'est quelque chose d'assez hors norme. Moi, ma conviction, c'est que c'est accessible à toutes et tous, qu'on peut tous innover à titre personnel, dans sa structure. Et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message, et ce sont des clés un peu que je donne dans mon livre aussi pour soi-même pouvoir innover et se dire que c'est à la portée de tous et toutes, et que si quelqu'un veut pas innover, c'est qu'il veut pas voir, pas entendre et pas parler, et qu'il faut vraiment essayer d'aller dans ça. Donc ne recherchez pas le Kama Sutra de l'innovation, faites les choses simples et ça peut marcher, on peut toutes et tous innover.
Merci à Carole de s'être prêtée au jeu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'AZAP.